VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous, merci d'être là et bienvenue dans ce journal, journée électorale ici aux États-Unis. Les Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs représentants au Congrès. Déjà plus de 30 millions de bulletins avaient été déposés hier dans les États, permettant le vote anticipé ou par procuration. Ces élections de mi-mandat prennent des allures de référendum sur Donald Trump et le pays est profondément divisé. Deux ans après la victoire surprise de Donald Trump, les démocrates espèrent prendre une revanche politique, au moins partielle, avant l'échéance de 2020. La Mauritanie a dénoncé hier la décision américaine de lui retirer le statut de partenaire commercial privilégié en Afrique. D'après Washington, c'est en raison de la persistance des pratiques de travail forcé et d'esclavage héréditaire. Le point avec Morgane Guiriec.
Cette décision est une trahison des relations d'amitié entre les deux pays et une négation de nos efforts dans le domaine de l'éradication des pratiques esclavagistes, a déploré sur Twitter Mohamed Ould Maham, porte-parole du gouvernement mauritanien. Monsieur Trump aurait-il pris cette décision s'il s'attendait à un contrat de vente d'armes de 110 milliards de dollars avec nous ? A-t-il ajouté en référence aux commandes militaires saoudiennes évoquées par le président américain pour expliquer sa réticence à suspendre les ventes d'armes à Riyad après l'affaire Khashoggi. Ce retrait de la GOA sera effectif au 1er janvier prochain. Selon Washington, la Mauritanie n'a pas fait assez de progrès dans la lutte contre le travail forcé et l'esclavage héréditaire. L'esclavage a été officiellement aboli en 80 en Mauritanie. Le pays a adopté en août 2015 une loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. La portée de la décision américaine est essentiellement symbolique vu le faible volume des échanges entre les deux pays.
Morgane Guiriec. Au Burkina Faso, deux militaires ont été tués et trois autres blessés hier soir à Nassumbu, dans le nord, près de la frontière malienne. Un véhicule de l'armée a sauté sur un engin explosif artisanal. Selon des sources sécuritaires, le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises. Des groupes djihadistes venus du Mali et du Burkina Faso tentent d'étendre leur influence dans l'ouest du Niger. L'armée s'est massivement déployée depuis une quinzaine de jours dans la région de Tillaberi, à cheval sur les frontières du Niger, du Burkina et du Mali. Cette région subit les incursions meurtrières de groupes armés. Le général Ahmed Mohamed, patron des armées du Niger, a alerté fin octobre que ce secteur dit des trois frontières est en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et criminels. Il est le théâtre d'attaques, d'assassinats ciblés et d'enlèvements fréquents. Soutien de la France à la consolidation de la démocratie en Gambie. Ce soutien de Paris se traduit par un engagement sans précédent de 50 millions d'euros sur 4 ans qui fera de la France le premier bailleur de bilatéral dans le cadre de son plan national de développement. Selon un communiqué du Quai d'Orsay, la France s'est notamment engagée dans le financement de projets dans l'agriculture et l'accès à l'eau potable. Et la ministre française des Armées, Florence Parly, a mis en garde hier contre toute manipulation intéressée de puissances opportunistes en République centrafricaine. Il s'agit là d'une allusion à peine voilée à la Russie. Le point avec Nanit Talani.
Les violences intercommunautaires régulières nous rappellent que les équilibres restent fragiles dans ce pays. Dans ce contexte, toute manipulation intéressée de puissances opportunistes serait inepte, indigne, a déclaré Florence Parly en référence à l'influence grandissante de la Russie en RCA, sans toutefois la citer nommément. La France critique vivement la tentative russe d'engager des pourparlers de paix entre groupes armés concurrents aux efforts de l'Union africaine. Pour Florence Parly, il faut apporter tout le soutien à l'Union africaine pour préserver toutes les chances d'un règlement rapide et pacifique de la crise. Elle assure que tous les efforts internationaux sont bienvenus pour sécuriser la République centrafricaine, mais il faut que cela se fasse dans le respect des résolutions des Nations Unies et dans le respect de la médiation de l'Union africaine. Elle a martelé que toutes les autres initiatives opportunistes et souvent intéressées ne paraissent pas contribuer à résoudre de façon positive la situation sécuritaire dans ce pays.
Nanit Talani, le président camerounais Paul Biya prête serment aujourd'hui pour un septième mandat. Âgé de 85 ans, il a déjà fait 36 ans au pouvoir. Le maire de Yaoundé a demandé aux habitants et aux groupes de danse de sortir en masse pour ovationner le chef de l'État le long de l'itinéraire qu'il empruntera pour se rendre à l'Assemblée nationale où la cérémonie est prévue. Toutefois, cette cérémonie va se dérouler dans un climat de tension. Hier, des hommes armés non identifiés à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, ont enlevé 82 personnes, dont 79 élèves. En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publics ont entamé hier une grève de 5 jours pour réclamer de meilleurs salaires, n'est-ce pas, Raissa Girondin?
Les 2/3 du personnel de santé, les infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, techniciens et agents administratifs sont en grève. Selon Sila Vazoumana, responsable de la communication de Cordi Santé, fédérant plusieurs syndicats, 9 centres de santé publics sur 10 sont touchés, dont les centres hospitaliers universitaires d'Abidjan et les grandes villes. Cependant, un service minimum était assuré pour les blocs opératoires et les salles d'accouchement. En revanche, les médecins n'ont pas appelé à la grève et étaient à leur poste de travail, selon Guillaume Essoac PC, secrétaire général du premier syndicat de la profession. Les agents de santé réclament des augmentations de salaire et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut. La Côte d'Ivoire connaît depuis 2 ans des grèves fréquentes dans la fonction publique, principalement pour obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail.
Raissa Girondin, 13 migrants d'Afrique subsaharienne ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles à bord d'embarcations de fortune. Les gardes-côtes ont sauvé 80 autres, ont confirmé les autorités à Melilla, enclave espagnole au nord-est du Maroc. Le premier ministre tunisien Youssef Chahed a annoncé hier soir un remaniement attendu de longue date qui vise selon lui à sortir de la crise politique. Mais la présence a fait savoir qu'elle n'approuvait pas ce remaniement. Au total, 13 nouveaux ministres entrent au gouvernement, mais la plupart des principaux ministères ne changent pas demain. Les élections législatives et présidentielles sont prévues en 2019. Madagascar se prépare à élire demain son prochain président. 36 candidats sont en lice, dont 3 anciens chefs d'État. Ce pays, il faut le dire, a traversé plusieurs crises politico-militaires ces dernières années. Morgan Guiriek, adjoint le directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar, David Radjohan.
Peut-être que pour la première fois à Madagascar, il y aura une élection en bonne et due forme. Et bien évidemment, on espère qu'il y aura un président qui sera élu et que tout de suite après, il n'y aura pas encore une crise politique.
Justement, à quelques jours du vote, quelle est l'ambiance?
On craignait au début en fait que l'élection va être reportée parce qu'il y a des candidats qui le réclamaient. On craignait également qu'on se verserait dans la violence. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout se passe normalement, une ambiance de campagne électorale avec des effets un peu festifs, mais également avec des échanges un peu virulents. Mais on a aussi remarqué que les candidats se pliaient au jeu démocratique, c'est-à-dire, entre autres, pour la première fois, il y a des passages de tous les candidats dans des débats télévisuels.
David Rajon, directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour ici aux États-Unis, quelques 4800 soldats américains ont été déployés hier dans des États frontaliers du Mexique. Le Pentagone s'est déclaré incapable de chiffrer le coût de cette opération voulue par Donald Trump et qualifiée de manœuvre politique par l'opposition. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit rencontrer jeudi à New York son homologue nord-coréen, le bras droit de Kim Jong-un. Les deux hommes discuteront des progrès dans la totalité des 4 piliers de la déclaration commune du sommet de Singapour. Et le procès du narcotrafiquant mexicain Joaquim El Chapo Guzman a connu pour ses évasions rocambolesques et pour avoir dirigé 25 ans durant l'un des cartels les plus puissants au monde s'est ouvert hier à New York sous haute sécurité. Et les États-Unis ont promis hier d'exercer une pression implacable pour faire plier l'Iran qui entend contourner avec fierté les sanctions américaines contre ces secteurs pétroliers et financiers. La Turquie a mis en garde Washington, estimant dangereux d'isoler la République islamique. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président des Républicains, Laurent Wauquiez, ont demandé hier, dans des messages séparés, aux autorités françaises d'intervenir pour sauver la vie de la Pakistanaise Asia Bibi.
Sur VOA Afrique.